Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
C'est ça aussi les médias, des gens qui savent pas ce que c'est mais qui donnent leur avis quand même. Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement et merci si vous êtes là depuis le début. À suivre Bruno Donnet pour sa rubrique Télescopage, ce sont les siens à lui. Notre invité sera le réalisateur et comédien Laurent Lafitte qui signe son premier film, L'Origine du Monde. Lisa Marie Marquez va nous dresser son portrait pré-fame, tout ce qui lui est arrivé avant sa célébrité. Et puis Marc-Antoine Lebray pour clore l'émission avec les stories de Lebray. Bonjour Nicolas Carreau.
Bonjour Philippe.
Bonjour Clément Le Saffre.
Bonjour Philippe.
On vous retrouve tout à l'heure et je salue Bruno Donnet. Bonjour Bruno.
Bonjour Philippe.
Bruno, tous les jours, vous observez ici les soubresauts de la machine médiatique et hier soir, vous avez regardé le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui était l'invité de Touche pas à mon poste sur C8.
Oui, grosse séquence politique hier soir, Philippe, sur C8, où dès la première minute, Cyril Hanouna a tenu à nous expliquer que l'interview n'avait pas été simple à obtenir.
Et c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué tous les deux. Il voulait pas venir au départ. C'est pas qu'il nous aimait pas. C'est que forcément, c'est vrai que le plateau de TPMP, c'est particulier.
Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il a d'aussi particulier ce plateau de télé ? Eh bien c'est simple, pour vous donner une petite idée de la tension qui règne, il faut vous dire que pour le ministre de l'Éducation, participer à Touche pas à mon poste hier soir, c'est un peu comme si c'était rendu à l'heure de vérité il y a 30 ans. Du reste, dès la première question, qui portait sur son livre, on a bien compris que l'interview allait être absolument sans concession.
Est-ce que c'était votre rêve d'être ministre de l'Éducation, c'est le ministère que vous vouliez avoir ? Parce qu'on vous sent, passionné dans ce livre.
Un peu surpris, hein, Jean-Michel Blanquer a répondu.
Oui, bien sûr.
Mais il était loin d'être au bout de ses peines, car Cyril Hanouna l'a relancé. Il lui a demandé davantage de détails.
Vous kiffez vos journées au ministère de l'Éducation ou pas ?
Et là, bien déstabilisé, le ministre lui a apporté une toute autre réponse.
Oui, bien sûr. Là.
Ensuite, Jean-Michel Blanquer a été soumis à la moulinette de l'équipe de l'émission et je vous garantis qu'il a passé un sale quart d'heure. Mathieu Delormeau a démarré sur les chapeaux de roue en lui disant très exactement ce qu'il pensait de Macron.
Non, mais je reconnais qu'on a vraiment un très beau président, ça faut le dire.
Mathieu Delormeau qui n'a pas hésité à faire cette courageuse révélation.
Monsieur le ministre m'a demandé un selfie, ça m'a...
Non, mais...
Hué pour être allé un peu trop loin, la parole est alors passée à Guillaume Janton qui, lui aussi, a dégainé une question coton.
Moi j'ai une question beauté.
Ah, oh Mais c'est bien.
Vous avez récemment changé de look, il y a énormément d'articles là-dessus. Cyril, vous parlez de votre barbe tout à l'heure.
Alors moi j'aime beaucoup comme ça.
Voilà. Est-ce que c'est quelque chose de réfléchi de votre part pour vous donner une image plus décontractée ?
Puis vint ensuite le tour de Raymond qui n'hésita pas à évoquer d'embarrassantes révélations parues dans la presse.
Vous êtes récemment sous le feu de... Des magazines People, est-ce que vous vivez bien cette notoriété qui est arrivée d'un coup ou est-ce que ça vous dérange d'être sur la une des magazines People comme ça ?
Mais le climax de cette interview... C'est le moment où les dossiers ont été portés sur le devant de l'écran. C'est à l'instant où Yann Moix s'est emparé du micro pour dire droit dans les yeux du ministre ce qu'il pensait de son bilan.
Très honnêtement... on peut aussi de temps en temps décerner à certains ministres des lauriers et je crois que vous êtes fait pour cette fonction et que d'une certaine manière vous l'avez honoré.
Voilà, alors une fois qu'on a entendu ça Philippe, il faut quand même tenter de comprendre pourquoi. Pourquoi Jean-Michel Blanquer a été à ce point ménagé ? Et la meilleure explication, c'est la chercheuse du CNRS spécialiste des médias, Claire Sekel, qui l'a livré hier soir dans un tweet. Elle y explique, je la cite, que « Touche pas à mon poste » agit comme une machine à dépolitiser tous les enjeux parce que la politique y est uniquement interprétée sur un mode relationnel autocentré autour des affects de son animateur, bien entendu. Alors je vous disais en préambule que la relation entre Cyril Hanouna et Jean-Michel Blanquer avait mal commencé, et c'est vrai. Pourquoi ? Parce que le ministre a eu l'audace de refuser l'invitation. Ça lui a valu un déplacement filmé de Cyril Hanouna sous les fenêtres de son ministère.
Fais juste un signe, Jean-Mi, regarde qui est là.
Mais également un tweet très moqueur.
Apparemment, Jean-Michel Blanquer ne viendra pas ce soir. Il aurait, d'après mes informations, un tournoi de fléchettes et le championnat de France de Marelle.
Il aurait donc suffi que Jean-Michel Blanquer change d'avis, qu'il dise oui à Cyril Hanouna, qu'il calme ses affects et qu'il explique pourquoi il le trouvait finalement très séduisant.
Parce que je l'ai trouvé sympathique.
Pour être traité non plus comme un responsable politique, mais comme un people ou comme un copain. Alors, si comme Marlène Schiappa l'a récemment appelé de ses voeux, Cyril Hanouna venait par extraordinaire à être choisi pour animer le débat présidentiel d'entre-deux-tours, on conseillera aux candidats de bien se souvenir de cette petite faiblesse-là.
Merci beaucoup Bruno Donnet pour cette analyse. À demain, Nicolas Carreau.
Oui.
Votre programme aujourd'hui, votre indispensable à 10h30.
Vous connaissez Franz Reichelt ?
Non.
C'est le presque inventeur du parachute et le sujet de ce livre.
Formidable. Chez Gallimard, la dernière fois que vous êtes venu de parler d'un livre chez Gallimard qui parlait d'aviation, ça a donné le Goncourt. C'était l'anomalie, si je me souviens bien. C'était enfin, en début de saison précédente. Oui, mais vous l'avez repéré avant tout le monde.
C'est vrai.
Voilà. Clément Le Saffre, un jeu vidéo, j'imagine.
Oui, un jeu vidéo français qui a un petit peu barré. C'est un petit peu comme si Quentin Tarantino avait réalisé Un jour sans fin. J'en dis pas plus.
Très bon teaser. Dans un instant, c'est Laurent Lafitte, comédien et désormais réalisateur, qui va venir nous parler de son premier film, L'Origine du Monde. Mais d'abord, musique, c'est Arlo Parks sur Europe 1.
9h, 11h. Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
Bonjour Laurent Lafitte.
Bonjour.
Comédien, théâtre, cinéma, télévision, vous étiez la révélation du film Les Petits Mouchoirs de Guillaume Canet. On vous a vu de l'autre côté du périph' avec Omar Sy, aussi dans Au revoir là-haut de Dumontel. Vous avez également joué dans du théâtre d'auteur, vous êtes pensionnaire de la Comédie Française ou un seul en scène ébouriffant. Et votre actualité, j'ai traduit too good pour dire trop bon parce que c'est votre actualité. L'Origine du Monde, premier film comme réalisateur dans lequel vous êtes également acteur. Il y a Karine Viard avec vous, Vincent McCain, Hélène Vincent. L'Origine du Monde, on pense à ce tableau de Courbet qui est au musée d'Orsay et qui représente un sexe de femme en gros plan. Alors allons-y, quel rapport avec votre film ?
Aucun. On a oublié Nicole Garcia.
Enfin, vous avez raison, j'ai oublié Nicole Garcia.
Non, il n'y a pas de rapport avec le tableau. Il y a un rapport avec...
Le sexe de femme en gros plan.
Ouais, avec le sexe de femme en gros plan, c'est vrai.
Qu'est-ce que ça raconte ? Comment la raconter ?
Qu'il n'y a pas
raconter.
Dans le film.
Ouais. C'est une fable et c'est en même temps très réaliste. Qu'est-ce que ça raconte ?
C'est une fable, ouais, c'est une fable surréaliste. Moi, j'aime pas trop pitcher.
Non, j'ai dit très réaliste.
Ah, très réaliste, oui, dans son traitement. Le point de départ est totalement surréaliste. Un type dont le cœur s'arrête de battre, mais qui n'est pas mort pour autant et qui va devoir se soumettre à... un cérémonial particulier pour que son cœur redémarre.
Alors, le cérémonial particulier, on va l'entendre après. On va d'abord entendre un extrait. Jean-Louis, c'est-à-dire vous, vous appelez votre meilleur copain, c'est Michel. Il est vétérinaire. Il l'appelle à la rescousse quand il s'aperçoit que son cœur ne bat plus.
Écoute mon cœur.
Je t'écoute.
Non, écoute mon cœur.
Ah, oui.
Alors, qu'est-ce qui m'arrive ?
Je comprends rien.
C'est ahurissant. Ton cœur ne bat plus.
C'est grave.
Disons que quand on est mort, c'est pas grave. Mais étant donné que t'as l'air vivant, c'est préoccupant. Je vais te réanimer.
Je suis animé.
Je préfère te briser de haut de ma côte que te regarder mourir.
Je t'emmène à l'hosto.
Qu'est-ce qu'ils vont me faire à l'hôpital ?
Ils vont te plonger dans un coma artificiel.
Pour quoi faire ?
Ah, pour que tu ressuscites.
Tu peux dire un truc normal, s'il te plaît ?
Enfin, c'est ce truc qui est pas normal, t'arrêtes pas de bouger, de hurler que t'es mort. Tu trouves ça normal, toi ?
Je suis pas mort, putain, je suis pas mort !
C'est l'adaptation d'une pièce de Sébastien Thierry qui la joue au Rond-Point en 2013, pièce qui vous avait fait hurler de rire.
Ah oui, j'avais pari comme ça depuis très très longtemps. Et encore une fois, quand je regarde le film et que je suis face à cette situation complètement dingue inventée par Sébastien, je ris encore, quoi.
Et là, il est en train de rire, il est devant nous.
Parce que j'ai voulu faire le film qu'on ne me proposait pas, moi, en tant que spectateur, ni en tant qu'acteur, a fortiori. Et j'ai essayé qu'il soit le plus drôle possible.
Pour que votre cœur redémarre, vous avez changé ça par rapport à la pièce. Ce n'est plus un marabout, mais c'est une coach de vie, interprétée par Nicole Garcia. Votre épouse, Karine Viard, enfin, interprétée par Karine Viard, c'est Valérie. Elle vous emmène chez Nicole Garcia, qui a une solution pour que votre cœur se remette à battre.
Votre cœur bat, Jean-Louis.
Bah non, justement, c'est ça le problème.
Pas votre cœur physique, mais nous avons deux cœurs, le cœur physique et le cœur cosmique.
Voilà.
Valérie.
Pardon.
Vous avez un problème avec votre mère.
Ah bon ?
Il va falloir que vous reveniez ici avec elle.
Vous voulez voir ma mère ?
La source de votre mère.
La source de ma mère ? C'est quoi ça, la source de ma mère ?
L'endroit où vous êtes apparu.
Ah, bah... Je suis apparu comme tout le monde par son...
Ouais, je dois le voir.
Son vagin.
Alors une photo.
Vous croyez sérieusement que j'ai des photos du sexe de ma mère ?
Alors vous devez prendre la photo.
C'est impossible, je peux pas...
Allez, au revoir.
Non, attendez, vous pouvez pas me laisser comme ça.
Vous avez 3 jours. Dans 3 jours, vous êtes mort.
Alors, j'ai pas choisi d'autres extraits parce que je ne veux absolument pas déflorer le film. Je n'avais rien lu avant. Je ne savais pas ce qui allait se passer. Et je conseille à tout le monde d'aller voir ce film sans lire aucun article de presse parce qu'il y a des twists et des surprises complètement dingues. Vous l'avez dit vous-même, vous vouliez faire le film le plus drôle possible. Et ce qui m'a vraiment étonné, vous demandiez à vos acteurs de jouer, je vous cite, des situations comiques sans chercher à être drôle. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ben, je pense que c'est un secret, c'est pas un secret, hein, c'est une règle de base de la comédie. Je pense qu'il faut que les situations soient jouées de manière très sincère, très premier degré, pour que la comédie fonctionne, et qu'il faut faire confiance aux situations et ne pas prendre en charge la comédie, ne pas jouer drôle.
Qu'est-ce que ça veut dire jouer drôle ? Moi, je suis pas comédien du tout. Je sais pas du tout ce que ça veut dire jouer drôle.
Ça va être, vous savez, ça va passer par une conscience du comique, une conscience de la comédie, une conscience que c'est des moments rigolos.
Le petit œil qui frise.
Le petit œil qui frise, ou le petit jeu en trop, les choses un peu surjouées, juste parce que c'est de la comédie. Non, c'est pas parce que c'est de la comédie qu'il faut surjouer. Au contraire, faut être très très sincère. Et quand les situations sont fortes, elles seront drôles malgré nous. Faut accepter de ne pas récupérer les lauriers de la drôlerie. Et de laisser ça aux situations.
C'est pour ça que vous avez récusé les mots d'auteur, les punchlines, les répliques qui font mouche.
Ah oui, ça c'est encore autre chose. Oui, oui, c'est vrai que les... Alors il y en a quand même, hein. Il y a plein de répliques de Sébastien qui sont excellentes. Et j'en ai rajouté aussi. Non, il y a aussi...
Non, ça m'a étonné, parce que moi j'ai rarement vu quelqu'un qui refuse d'avoir des punchlines qui font rire tout le monde.
Non, il y a des répliques qui sont très drôles. Mais ce que j'aime pas, c'est quand on sent l'écriture, quand on sent le mot d'auteur... Alors que là, quand il y a des répliques drôles, elles sont toujours nourries par la situation. Elles sont toujours provoquées par la situation. Et en l'occurrence, c'est une situation dramatique. C'est un drame qui fait rire.
On va parler de ce drame, on va parler de ce qu'il y a en profondeur, parce que c'est un film comique très, très drôle, mais qui dit beaucoup de choses. Il y a un sous-texte, si j'ose dire. Mais d'abord, le portrait de Laurent Alphitte, le portrait pré-fame, c'est Lisa Marie Marquez qui arrive. À tout de suite.
9h-11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
En compagnie de Laurent Lafitte qui signe son premier film L'Origine du Monde, et les chiffres viennent de tomber, c'est la première projo au Hall. J'ai une très bonne nouvelle pour vous, L'Origine du Monde est deuxième, juste derrière Dune, 148 entrées, L'Origine du Monde 63 entrées. On va saluer Les Amours d'Anaïs, 18 entrées, mais quand même c'est un très très bon démarrage, parce qu'il était impossible de passer devant Dune vu le battage et l'attente autour de ce film.
Ah oui, Dune, c'est sûr que c'est un grand désert, voilà. qu'on les laisse traverser tranquille.
Voilà, donc ce soir il y aura la fête des chiffres, je pense qu'elle sera arrosée avec raison.
On verra.
Bonjour Lisa Marie Marquez.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Vous êtes avec nous pour faire le portrait de l'invité, un portrait inédit, le portrait de la célébrité avant sa propre célébrité.
Et oui, bonjour Laurent Lafitte.
Bonjour.
Vous êtes comédien, réalisateur, pensionnaire de la Comédie Française. Mais comment en êtes-vous arrivé là ? On va rembobiner et revenir ensemble sur tout ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Laurent Lafitte, vous êtes né à Fresnes, près de Paris. Enfant, vous êtes un bout en train.
Ça m'énerve toujours.
D'être né à Fresnes ?
Oh, ça m'énerve.
Vous n'êtes pas né à la prison ?
Mais non, mais
dans une clinique.
La clinique était à Fresnes alors qu'on vivait à Paris, et je me sens tellement parisien qu'il n'y a pas écrit né à Paris.
Ouais.
Ça m'énerve. Bon, pardon.
Enfant, vous êtes un bout de train, le déconneur de service. À l'école, vous faites rire vos camarades. Mais c'est surtout en regardant la télévision que vous prenez goût au métier d'acteur. Quand vous les regardez jouer, vous pensez que les acteurs vivent vraiment les histoires qui se passent dans les films, à l'écran. Et ça, petit, ça vous fascine.
Vous le croyez vraiment ?
Oui, oui,
quand il y a un mort, vous pensiez qu'il était mort ?
Alors non, mais je crois en tout cas que... Là, on parle de la petite...
De l'enfance,
bien sûr.
Bien sûr.
Oui.
Là, je crois vraiment que pour vivre les aventures d'Indiana Jones, il faut devenir Harrison Ford.
Ouais.
Donc mon désir d'acteur vient de quelque chose de très, très concret.
Vous regardez d'abord les films du dimanche soir, souvent en cachette, derrière la porte du salon, parce que vous êtes censé dormir. Vous découvrez aussi le théâtre à travers le programme Au Théâtre ce soir, qui diffuse des pièces enregistrées. Tout ça vous nourrit. Mais votre premier choc cinématographique, c'est à l'âge de 8 ans avec ce film.
Téléphone maison.
Ça marche toujours.
Mais ouais,
j'ai les poils.
E.T. de Steven Spielberg, pour ceux qui n'auraient pas reconnu.
Ouais, extraordinaire. Chef d'œuvre absolu.
Puis à 11 ans, dans un autre registre, vous regardez L'Exorciste, là aussi en cachette, mais cette fois en espagnol. Le film vous traumatise, vous n'en dormez plus. Pourquoi vous l'avez regardé en espagnol ?
Parce que j'étais en Espagne, c'était un cinéma de plein air en Andalousie, et je me suis faufilé pour voir ce film qui est hyper traumatisant.
Ouais.
Oui.
j'ai redormi avec mes parents pendant tout l'été.
Vous aviez quel âge ? 22 ans ?
J'avais 22 ans.
Non, blague à part, vous aviez quel âge ?
Je sais, j'avais 11 ans, je pense.
Je vais vous dire pourquoi je vous pose la question, parce qu'on est beaucoup sur la filiation dans le film L'Origine du Monde.
Ah oui, oui,
il y a
beaucoup
d'histoires de parents.
Ah
je
ne
veux pas tout raconter.
Non, mais il y a du
Lisa
scoop.
Marie Marquez.
Laurent Lafitte, ado, vous êtes fan de cinéma américain, Scorsese, De Palma et les films d'Hitchcock. Vous les regardez tous. Votre film préféré, c'est Sueur froide, Vertigo, dans la version originale, que vous connaissez par cœur de façon presque obsessionnelle.
Oui, c'est mon côté fétichiste, comme Hitchcock. Ouais.
Chaque plan.
Je le connais très 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 bien. Ouais. Et puis le score de Bernard Herrmann, c'est juste...
C'est la musique.
Pas la musique, pardon, c'est juste extraordinaire. Ouais.
À l'âge de 15 ans, vous tombez sur une annonce dans le journal François pour le téléfilm « L'enfant et le président » destiné à FR3. Vous envoyez alors une lettre de candidature, un CV et une photo d'identité format photomaton. Mais qu'est-ce qu'on met sur son CV quand on a 15 ans, Laurent Lafitte?
Je sais plus, ouais. je sais plus, j'avais dû écrire une petite lettre, mais c'était pas un CV, non. Mais et très vous... envie, j'ai dû mettre.
Et vous êtes retenu, vous obtenez votre premier rôle, on écoute un extrait.
Before Tessun, at come from...
Vous l'avez préparé ce texte?
Oui, mademoiselle.
Parce que nous, on n'a rien compris.
C'est vous, ça?
Oui, c'était...
C'est dans quel film?
C'est un téléfilm qui s'appelle L'enfant et le président avec Michael Lonsdale. C'est pour FR3, à l'époque, ouais. On disait FR3. Et c'est, voilà, c'était une scène d'un cours d'anglais dans un collège.
Ce tournage est une révélation. Vous avez trouvé ce que vous voulez faire, devenir acteur et devenir grand, adulte aussi. C'est ce que vous avez toujours eu envie d'être. Adolescent, il vous arrive même d'emprunter la voiture de votre mère pour faire des tours de périph en écoutant Aznavour à fond.
Je me voyais déjà en haut de l'affiche.
Oui, c'est vrai.
J'avoue. Ça fait beaucoup d'aveux déjà. Hein.
Ouais, c'est pas mal, non? Ils sont moins graves que dans le film.
Ouais, mais... c'est pas fini.
Après votre année de seconde, vos parents acceptent que vous arrêtiez le lycée. Vous vous inscrivez à la classe libre du cours Florent. Vous faites la connaissance d'un certain Guillaume Canet, entre autres, et vous commencez la formation de théâtre. Vous apprenez les bases du métier et aussi à vous faire confiance. À la fin du cursus du cours Florent, vous mettez en scène et vous jouez dans On purge bébé de Fedot. Et vous réussissez ensuite le prestigieux concours du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique à 23 ans, l'âge limite pour le passer. Au conservatoire, vous étudiez 3 ans avec une année à l'étranger, à Guildford School of Acting en Angleterre, où vous vous formez à la comédie musicale, au chant et à la danse, c'est bien ça?
Oui, alors la danse, non.
Que le chant?
Franchement, le chant, oui, le chant, j'ai beaucoup travaillé le chant. C'est un répertoire qui m'intéresse beaucoup, la comédie musicale. Il y a des choses, il y a à boire et à manger, mais il y a des choses super.
Diplômé du conservatoire, vous passez des auditions, vous décrochez des seconds rôles au cinéma et à la télévision. Vous écrivez aussi de votre côté, mais tout s'accélère à partir de 2008. Vous décidez de montrer qui vous êtes vraiment en montant sur scène pour votre one-man show. Laurent Lafitte, comme son nom l'indique, vous jouez ce spectacle 350 fois. Vous attirez l'attention des médias, les rôles s'enchaînent. Et le grand public vous découvre au cinéma en amoureux transi dans la bande du film Les Petits Mouchoirs de Guillaume Canet. La suite, on la connaît et moi, je m'arrête là.
Mais merci. Merci,
c'est sympa.
Merci. Oui, en tout cas, c'est précis et c'est. Voilà. Il n'y a pas d'erreur.
Et vous remarquerez, je suis sympa, j'ai pas parlé de classe mannequin.
Ah, c'est sympa. Je vais pas en avoir parlé jusqu'au bout. Merci d'avoir tenu votre engagement.
Oh non! Qui a mis la musique? Ça, c'était pas prévu.
C'est des nostalgiques.
C'est Jérémy Hébert. C'est sa collègue de disque. Il les passe quand il peut. Et là, il avait la bonne occasion.
Il faisait la gueule quand il a passé Bernard Herrmann. Et là, par contre, il est tout content.
Merci beaucoup, Lisa Marie. Merci, Jérémy Hébert. C'est notre réel. Il reste avec nous. Vous restez avec nous, évidemment, Laurent Lafitte. Culture Média continue. Dans un instant, notre premier indispensable, Nicolas Carreau, va nous parler d'un premier roman tiré d'une histoire vraie assez tragique.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
En compagnie de Laurent Lafitte qui signe son premier film, ça s'appelle L'Origine du Monde. C'est une histoire assez extraordinaire, c'est quelqu'un qui vit mais dont le cœur vient de cesser de battre et il rencontre une coach de vie, je suis obligé de résumer à grands traits, incarnée par Nicole Garcia, et pour que son cœur puisse se remettre à battre, il faut qu'il lui présente une photo du sexe de sa maman. Voilà où on en est. C'est tiré d'une pièce de Sébastien Thierry, mais vous avez écrit beaucoup de scènes. Il y a une scène extraordinaire qui n'est pas dans la pièce, évidemment, puisque c'est Karine Viard qui joue votre épouse, qui va dans un copy-top
ou une
entreprise dans laquelle on peut faire des photocopies et elle doit agrandir une photo qu'elle a chopée sur Internet. Scène absolument magistrale, écrite par vous.
Oui, j'ai rajouté quelques scènes, le prologue, mais il y a 70% de la pièce dans le film. J'en ai fait un film, quoi. J'ai essayé de déthéâtraliser, de rajouter des séquences. D'installer le personnage avant que son cœur s'arrête de battre, et puis des scènes d'extérieur, d'aérer l'histoire, quoi.
Et puis c'est pas seulement une comédie, c'est une réflexion sur les secrets de famille. En quoi ça vous touche à ce point, les secrets de famille, pour que vous choisissiez d'en faire le sujet de votre premier film?
Moi j'ai un peu une famille à scoop, mais comme beaucoup de familles, et puis ce qui m'intéresse,
c'est quoi une famille à scoop?
Bah, de temps en temps, on a une petite révélation. Voilà, on fait, ah bon, tiens, je savais pas.
Ah bon?
Oui, oui, bah moi, ça a été comme ça. Mais dans beaucoup de familles, hein, là, quand je présente le film, il y a beaucoup de gens qui viennent me dire que bon, ça les fait rire parce que ça leur rappelle aussi des événements. Mais c'est ça, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand on a une proposition totalement idéalisée, que quand on creuse, c'est pas aussi clair que ça, quoi. Et la famille, c'est un lien obligatoire, quoi. C'est un amour imposé, une injonction à l'amour. Et qu'est-ce qu'on fait de ce lien quand il n'y a pas d'affinité ou quand le lien ne se crée pas? Qu'est-ce qu'on en fait, quoi?
On essaie de s'en détacher. On voit la différence de déco entre l'appartement de votre maman et le vôtre. Oui. Et le vôtre, on est dans elle déco. Hein.
Oui, il y a une émancipation aussi sociale.
Tout est luxueux. Ouais. Le mobilier est très épuré. Ouais. Il y a les lampes qui vont bien. Il y a les fauteuils Charlems. Il y a des bougies, mais c'est diptyque. La montre, c'est Cartier. La machine Nespresso, j'ai oublié la marque, mais c'est la marque qui va bien, la plus chère.
Il y a tout.
Et il y a des livres. Et oui. Les livres, c'est assez notable pour être remarqué, il n'y a que des Pléiades et de la collection blanche de chez Gallimard.
Oui,
c'est comme ça chez vous?
C'est ce qu'il y avait de plus joli pour mettre dans la bibliothèque. Peut-être que le choix était plus esthétique que littéraire.
Mais est-ce que c'est comme ça chez vous? Est-ce que votre appartement ressemble à une gravure de mode?
Non, pas du tout, j'espère pas. Non, c'est plus disparate, des objets un peu plus... Ouais.
Voilà. Vous avez vu l'enchaînement, Nicolas Caro?
C'est ouais. Magnifique.
Gallimard, collection blanche.
Exactement.
Votre livre du jour. Mais ouais.
Ça s'appelle... Les Envolés.
C'est un premier roman.
Voilà, signé Étienne Kern. C'est l'histoire de Franz Reichelt. Vous le connaissez, en fait, sans doute, mais sans le connaître. Une vidéo de ses exploits circule sur les réseaux sociaux. Tout le monde se marre en la regardant. Mais en fait, faudrait pas, parce que c'est une archive terrible, et puisqu'il s'agit de la mort de cet homme. Franz Reichelt a inventé en 1912 une sorte de parachute, mais pas vraiment au point. Sur la vidéo en question, on le voit sauter depuis le haut de la tour Eiffel et s'écraser au sol devant des badauds un peu curieux, comme ça. Il porte une casquette et des moustaches, et surtout une combinaison très large, qui dépasse de sa tête comme un wingsuit utilisé aujourd'hui dans le parachutisme.
Et je vois très bien cette image, ouais, et je pensais que c'était un fou.
Alors, évidemment, quand on voit la vidéo comme ça, ou qu'on connaît l'histoire, on se dit, bon, bah, c'est un clown ou un type sérieusement dérangé. Et bien, c'est cette question, justement, qui a intéressé l'auteur, Étienne Kern.
Souvent, Franz Reichelt est présenté comme un personnage ridicule. Sur Internet, on le trouve dans les classements des morts les plus bêtes de l'histoire. Et on peut comprendre, parce qu'effectivement, le costume qu'il a sur la vidéo est vraiment invraisemblable. Enfin, il a un petit côté Dracula, on dirait un oiseau, une poule d'eau, quelque chose comme ça. Et en même temps, il y a une déréalisation qui est entraînée par le noir et blanc et le silence. Alors que si on voyait sous nos yeux, en couleur, avec le cri qu'il a probablement poussé, la chute de cet homme, nous serions évidemment d'emblée ébranlés par ce à quoi on assiste. Donc c'est vrai que dans mon projet d'écriture, j'ai eu à cœur, pas forcément de rendre à Reichelt sa grandeur, mais malgré tout, au moins de présenter cet homme comme étant digne de notre empathie et de notre émotion. Parce que malgré tout, et mine de rien, on a là quelqu'un qui a poussé un rêve jusqu'à en mourir, et il y a là quelque chose d'absolument fascinant et d'une certaine manière d'admirable.
Donc ce n'était pas un fou, dit l'auteur, il était ingénieur, aviateur?
Pas du tout, il était tailleur pour dames, c'est ça ce qui est fascinant. Non. Le type n'avait pas le début de commencement de compétences techniques ou scientifiques, exactement. Mais il savait coudre et il a répondu en fait à un concours qui promettait 5000 francs à celui qui inventerait un parachute efficace. Au début, il fait des essais avec des mannequins, du haut de son immeuble, puis du haut de la tour Eiffel d'ailleurs, à chaque fois c'est un échec, et il finit par se dire en fait... Ça ne peut pas marcher avec des mannequins parce que justement, ils sont inertes alors qu'il faudrait pouvoir bouger pour ajuster un petit peu la toile. Et donc, il se dit, bah, voilà, je vais essayer comme un savant fou qui essaye sa potion magique sur lui-même. Mais c'est aussi une époque. C'est aussi pour ça qu'on ne peut pas comprendre cette vidéo en noir et blanc. On est en 1912, les avions commencent à voler vraiment. On n'en est plus aux expériences tout le temps ratées. Et tous les jours, bah, y a un type qui réalise un exploit dangereux mais qui fonctionne. Et bah, le livre d'Étienne Kern raconte aussi ce moment de l'histoire.
Il y a une forme d'enthousiasme, de candeur, d'émerveillement devant ces aéroplanes qu'on envoie dans le ciel comme des jouets. Et ça a quelque chose de fascinant et de très différent de notre époque. Nous, spontanément, quand on pense aux avions, enfin chacun a son propre imaginaire, mais assez naturellement, on va assimiler les avions au bilan carbone, à une catastrophe qui se prépare, à un accident possible, à une bombe, par exemple. Alors que dans ces années-là, 1910 et suivantes, il y a cette candeur, cette espèce d'enfance encore de l'aviation et en l'occurrence du parachute. qui creuse l'écart de manière très étonnante entre ces deux époques.
Nicolas, est-ce que c'est un roman historique ? Est-ce que tout est vrai dans ces pages ?
Alors, non. Il y a des essais sur la vie de Franz Reichelt. Là, non. Même si Étienne Kern s'est énormément documenté avec notamment les journaux de l'époque, il invente les dialogues, il invente certains personnages, il revient à la source surtout, jusqu'au saut de la Tour Eiffel, pour essayer de comprendre le processus qui mène ce tailleur pour dames à cette tentative catastrophique. Et puis, c'est aussi un roman personnel sur des faits douloureux, évoqués d'une manière très délicate, sans jamais perturber le rythme du roman. Belle découverte.
Les Envolées, donc, Étienne Kern chez Gallimard. Ça vous a intéressé, Laurent Lafitte ?
Beaucoup, d'autant que, évidemment, je vois très bien de quelle archive il s'agit. Et moi, j'ai une petite boîte de production qui s'appelle 2L Productions, parce que c'est mes initiales, et ça fait aussi
2L d'avion.
2L, les 2L d'avion, 2L d'oiseau. Et je m'étais intéressé à cette vidéo, parce que je me suis dit, j'aurais pu l'utiliser comme logo pour ma prod, parce qu'il y a cette espèce de naïveté de j'ai un rêve fou et je me lance dans le vide, on verra bien ce qui se passe. Bon, c'était trop compliqué parce que les droits sont pas très clairs autour de cette archive et tout ça, mais je suis totalement fasciné par cette archive là et je la trouve effectivement en même temps bouleversante, drôle et terriblement naïve et attachante. C'est toute une époque aussi.
Et hors antenne, Nicolas Caro disait qu'il vous voyait bien dans ce rôle-là.
Ah bah complètement, ça oui. Correspond à mort.
Vous vouliez annoncer aussi un festival à Besançon.
Oui, Livre dans la boucle. Ouais. Vendredi, samedi, dimanche, la présidente, c'est Cécile Coulon que vous avez reçue lundi. Il y a toujours beaucoup de monde au programme de Besançon cette année, entre autres, Philippe Jaénada, Sor Chalandon, ouais. Léonore Derecondo, Marie Dariussec, Jim Fergus, Nina Bouraoui, il y a tout le monde.
Voilà pour ce week-end, Livre dans la boucle à Besançon. Merci Nicolas Caro, je redonne le titre Les Envolées chez Gallimard dans la collection Blanche, comme tous les livres qui sont chez Jean-Louis incarné par Laurent Lafitte. Quel enchaînement, on va parler de jeux vidéo avec Clément Le Saffre. À tout de suite sur Europe 1.
9h-11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
En compagnie de Laurent Lafitte, comédien et désormais metteur en scène de cinéma, ça vient de sortir. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, ça s'appelle L'Origine du Monde et une fois n'est pas coutume, je vous conseille ce film. Bonjour Clément Le Saffre.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Allez-vous nous conseiller ce jeu vidéo qui est votre indispensable du jour, jeu dont vous me dites qu'il va faire du bruit, il s'appelle Deathloop.
Absolument.
Boucle de la mort.
On peut un peu le traduire comme ça en effet, hein. C'est le jeu français le plus attendu de l'année, hein, même s'il a un nom en anglais. C'est produit par le studio lyonnais Arkane. Il avait fait sensation lors de sa présentation en 2019 à l'E3, c'est le salon mondial des jeux vidéo. Et donc vous l'avez dit, Deathloop, c'est une boucle mortelle. Et c'est vraiment très littéral puisque l'on incarne Colt, un homme coincé dans une boucle temporelle sur l'île fictive de Black Reef. Chaque matin, il se réveille sur la même plage. Sauf que Colt est le seul à réaliser qu'il revit encore et encore et encore la même journée. Ce qui lui vaut d'être traqué par les leaders de l'île, les visionnaires.
Pour tout le monde sur cette île, c'est le paradis, une fête sans fin. Où me donner la chasse est l'attraction principale. Et peu importe comment j'essaie d'échapper, il me chope toujours. Mais j'ai une vraie tête de nez.
C'est comme dans Un jour sans fin.
Alors, il y a un peu de ça, sauf que vous l'entendez, la bande-annonce donne le ton, on n'est pas vraiment dans une comédie. Hein. Deathloop, c'est un jeu d'action hyper rythmé, un vrai shot d'adrénaline dont on sort le souffle coupé tellement c'est intense.
Alors, il faut faire quoi dans cette boucle temporelle ?
Survivre, déjà, c'est un bon début. La journée recommence chaque matin, mais si vous mourrez, vous repartez au site zéro. Et je rappelle que vous êtes donc traqué en permanence par des chasseurs de primes. Donc, très vite, on comprend que pour arrêter la boucle temporelle et donc finir le jeu, il faut éliminer les 8 leaders de Black Reef en une seule et même journée. Plus simple à dire qu'à faire, hein, les visionnaires ont les meilleures armes, des capacités quasiment surnaturelles et ils sont très difficiles à trouver alors qu'au début, Colt, lui, n'a qu'une machette pour se défendre. Donc, autant vous dire que pour tous les éliminer en une seule journée, c'est un peu coton. Il faut être patient, en apprendre plus sur eux à chaque boucle, repérer leurs points faibles, leurs déplacements. Et paradoxalement, en fait, plus vous mourrez, plus vous avancez dans le jeu car vous collectez des informations. Et c'est l'arme la plus puissante dans Deathloop.
Pour paraphraser Nietzsche, ce qui te tue te rend plus fort. Et en vrai, c'est pas. On se pose la question. Vous n'êtes pas gamer, vous, Laurent Lafitte.
Non, mais j'aimerais bien, mais je trouve rien qui me donne envie de m'y mettre.
Alors peut-être celui-ci. Mais question de novice, est-ce que c'est pas lassant de faire et refaire encore et encore la même boucle ?
C'est effectivement ce qu'on peut se demander, et je dois avouer qu'au début un petit peu, quand même parce
vous.
Que voilà, parce que le début est un peu laborieux. Le héros, on l'a dit, il n'est pas très fort, donc on meurt quand même souvent. Et il y a beaucoup de choses à assimiler en plus sur le fonctionnement du jeu. Mais au fur et à mesure, ça devient palpitant. Hein. Je me suis laissé embarquer par ce concept de boucle temporelle. C'est pas très original, hein. Il y a plein de jeux vidéo, plein de films là-dessus. Mais ça marche bien. Et pourquoi ça marche? Eh bien parce que Deathloop est vraiment très très bien produit. L'action est complètement dingue, ça part dans tous les sens, le rythme est effréné. Il y a une violence qui est complètement assumée et qui, à mon sens, dope encore plus le jeu. C'est un très bon choix de la part des développeurs. Et puis, il y a un ton, il y a une ambiance un peu barrée et ça s'entend dans les dialogues.
Eh ben, je savais pas que t'aimais faire la fête.
C'est pas mon style.
T'es du genre marié à ton boulot, c'est ça? Et c'est quoi ton style au juste?
Taper la discute au lieu de tuer des connards apparemment.
Voilà, moi je trouve que le jeu il se démarque un peu par ça, il y a un côté très assumé, très cash, et il y a aussi une bande-son rock un peu soul aussi, très énergique, que j'ai beaucoup aimé, et puis une ambiance visuelle inspirée des années 60, hein, vous savez, ces trucs avec beaucoup de couleurs, des gros moniteurs d'ordinateur comme on n'en fait plus du tout. Un petit peu rétro, et les designers en fait ont beaucoup puisé dans le cinéma notamment, et c'est des vrais cinéphiles, et ils sont notamment allés chercher dans les films de genre. Sébastien Mitton est le directeur artistique du studio Arcane.
J'ai ressorti ce film The Thing de Carpenter, un cadre intime, l'isolation et le froid mixé avec encore Kurt Russell, anti-héros badass qui aime les gros flingues, et le dieu d'osier The Wicker Man de 73, une île écossaise, un flic qui enquête durant une fête païenne. Pour moi, c'est une ode au mystérieux et au mystique. Et ça, on aime bien dans les jeux vidéo. Et bien sûr, les productions de Tarantino, car notre volonté, c'est de créer des personnages iconiques et mémorables à la sauce action et autant couleurs.
Voilà, donc vous le disiez, Philippe, c'est un peu un jour sans fin, mais réalisé par Tarantino. Hein, ça part vraiment un peu dans tous les sens. Il y a des personnages assez iconiques. On sent que c'est un jeu qui a été pensé dans les moindres détails. Et ça fait plaisir de voir des jeux français avec un tel niveau d'originalité. Si ça vous tente, je rappelle le titre, ça s'appelle Deathloop et c'est dispo sur PC et PlayStation 5.
On n'a pas dit le prix.
Le prix est un prix d'un jeu normal, donc 60 euros.
Il a des références, Sébastien Mitton, dans le cinéma. Je voyais hocher la tête Laurent Lafitte, oui, et même Nicolas Caro. Dis donc, c'est pointu.
Wicker
hein.
Man, c'est incroyable ce film.
Voilà.
Il y a vraiment ça se sent vraiment, c'est pas juste des trucs qu'ils ont repris.
Voilà. Vous avez vu qu'on a réussi à vous tenter sur un jeu vidéo.
C'est intéressant. Ouais. Ouais.
On marque une courte pause et c'est la dernière ligne droite de l'émission. Laurent Lafitte avec nous pour la dernière partie. À tout de suite.
9h, 11h. Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
L'origine du monde, c'est avec Karine Viard, Vincent McCain, Hélène Vincent, Nicole Garcia et Laurent Lafitte qui signent le film. L'origine du monde, c'est le tableau de Courbet qui représente un sexe féminin en gros plan. Et dans le générique du film, Laurent Lafitte, vous remerciez votre maman. Vous dites merci à ma mère qui n'avait rien demandé. Est-ce qu'elle a vu le film?
Oui, elle l'a revu hier soir d'ailleurs.
Alors
oui, elle a rien demandé, la pauvre.
Et qu'est-ce qu'elle en a dit du film?
Ça l'a fait marrer parce que justement, elle a tellement rien à voir avec le personnage de ma mère dans le film que ça l'a fait rire.
Oui, mais elle a rien à voir avec cette histoire-là.
Non, mais moi je me cache derrière Sébastien Thierry, hein, c'est son idée.
Ah oui, c'est vrai. Donc vous avez fait attention à ne pas aller trop loin parce qu'on peut vite déraper.
Oui, mais c'est subjectif. Moi j'aime bien aller plus loin que d'habitude, mais en restant dans ce qui me fait rire.
Parce que vous aimez quand même, vous êtes quelqu'un qui pousse le curseur assez loin.
Ah ben on se fait chier, non, sinon, quand même. Mais souvent, de toute façon.
Non, mais il n'y a pas un papier qui ne cite pas votre punchline des Césars 2012.
Quelle est-elle?
Le César du meilleur acteur français dans une actrice étrangère.
Ah, oui. Oui, bah oui, mais ça marque, c'est fou, ça a marqué. On m'en parle presque plus que de mes films.
C'est non, embêtant. Non, mais c'est tout le temps cité. En revanche, est-ce que vous avez l'impression d'être allé trop loin au dernier César? Vous étiez un des co-auteurs présentés par Florence Foresti.
Certains
ont très mal pris. Certains ont très mal pris la cérémonie.
Oui. Je comprends, je comprends pas. Non, d'être allé trop loin. Non, je trouve que la cérémonie, finalement, elle a ressemblé à l'année qu'on venait de vivre. C'est-à-dire un truc un peu merdique, trop politique, avec quand même des envies de cinéma, quand même envie de rigoler, mais pas le cœur à la fête. Ouais. Et ben je trouve voilà, la cérémonie, elle a ressemblé à ça.
Mais ce qu'on a retenu, beaucoup de gens de la profession ont retenu Corinne Maziero nue.
Oui, c'était son moment, elle a décidé d'en faire ça, et elle a le droit, et on a le droit d'avoir un avis dessus. C'est pas une réponse de Normand, je pense vraiment que c'est un endroit où certains artistes veulent s'exprimer à leur manière, et c'est ce qu'elle a fait. C'est pas ce qu'on lui avait écrit, mais c'est ce qu'elle en a fait, et elle a été courageuse.
Voilà, je vais prendre votre défense. Vous connaissez le problème des extraits, c'est que ce sont des extraits. Et quand on voit une séquence sur YouTube qui fait 1 minute 30, on pense que toute la cérémonie, c'était cette séquence d'une minute 30.
Oui, c'est sûr que nous, on a beaucoup travaillé sur cette cérémonie, sur les hommages, sur la magnéto, l'orchestre, le choix des musiques, tout notre amour du cinéma. On a voulu le transmettre, et c'est vrai qu'il y a des choses qui ont un peu pris le pas sur tout ça, mais bon, c'est comme ça.
Autre projet, Laurent Lafitte, vous allez incarner le personnage principal de Wonder Man Nouvelle série qui arrive sur Netflix France, Wonder Man, c'est Bernard Tapie, ce sera toute sa vie.
Alors c'est sa vie à partir de ses débuts, quand il avait des velléités de chanteur, qui faisait des télécrochets, qui vendait des télés en porte-à-porte, jusqu'à son entrée en prison, au MVA et l'entrée en prison.
Vous en êtes où ?
Pour l'instant, ce sont les auteurs qui travaillent surtout, et le réalisateur, Tristan Seguela, avec qui j'avais déjà tourné, et Olivier de Mangel, qui a signé Baron Noir.
Scénariste de Baron Noir.
Atlantique. Ouais. Voilà, donc là, c'est surtout eux qui travaillent.
Le projet n'a pas plu à Bernard Tapie, vous avez vu ça ? Il n'était pas content. Il dit, j'étais contre, c'est le fils d'un copain, donc Tristan Seguela. Ouais. Le faire sans me demander mon accord de principe, c'est pas très bien, il y a des choses qui se font pas, voilà.
Il ne lui a pas demandé son accord parce qu'il n'avait pas à le faire, mais il l'a prévenu qu'il avait ce projet-là.
Bon, voilà, c'est la vie. Un mot sur la disparition de Jean-Paul Belmondo. Je vais vous dire ce qui m'a frappé en préparant cet entretien. Vous avez révélé que vous avez, d'une fois contre cœur, refusé un rôle à ses côtés. Ouais. Et vous lui avez écrit une lettre.
Bah oui, parce que franchement, c'était horrible. Pour moi, c'était mon idole. Je reçois un film, une proposition de scénario avec Belmondo. Je suis fou de joie pour faire son fils. En plus, j'étais très, très heureux. Le scénario était pas très bon, j'allais faire le film pour des mauvaises raisons, ou pour une bonne, hein, juste travailler avec lui, mais j'ai pas réussi à passer le pas sur ce scénario, et je lui ai écrit une lettre pour lui dire que j'aurais adoré travailler avec lui, mais que j'étais pas assez convaincu par le scénario, et il m'a répondu, j'étais très surpris, en me disant que j'avais raison, qu'il fallait être sûr de ses choix, et pas y aller pour un acteur, ou pour des mauvaises raisons, et ça m'a beaucoup touché.
Petit hommage à Jean-Paul Belmondo. Marc-Antoine Lebray, bonjour.
Bonjour.
54h30, c'est l'heure des stories de Marc-Antoine Lebray, dans laquelle des personnalités viendront de visite à notre invité, aujourd'hui Laurent Lafitte. À commencer, c'est le docteur Michel Simès qui est là.
Oui, bonjour Philippe, bonjour Laurent. Alors j'ai vu que dans votre nouveau film, L'Origine du Monde, vous êtes atteint d'un mal étrange. Votre cœur ne bat plus et pourtant, vous êtes en vie. Alors mon diagnostic, pas de panique, vous êtes peut-être juste devenu le présentateur de Vivement Dimanche.
Bon, il nous écoute.
Il nous écoute, s'il nous entend. J'ai une autre blague encore plus lourde. Vous connaissez la différence entre votre cœur dans le film et Bertrand Cantat ? Eh bien Bertrand Cantat, il bat.
Oh. Chantal Latsou.
Je suis choqué aussi.
Ouais, Chantal Latsou a un mot à vous dire.
Bonjour Laurent Lafitte. Ouais, je l'adore. En plus, maintenant qu'il est devenu réalisateur, j'aimerais tellement qu'il réalise plein d'autres trucs. Déjà qu'il réalise tous mes fantasmes en me faisant tourner. Fais-moi tourner, grand fou. En tout cas, si un jour t'as envie de reprendre ta caméra et de faire la suite de L'Origine du Monde, viens voir Tata Chantal, je te montrerai ce qu'il y a là-dessous.
Et un collègue à vous a tenu absolument à venir ici, Laurent Lafitte, c'est Fabrice Luchini.
Ah mon Laurent, wesh Lolo, comme disent les jeunes. Laurent Lafitte de la Comédie Française, ça c'est beau. T'as quitté les planches pour aller au cinéma, mon Laurent. L'inverse de Bébel qui vient de quitter le cinéma pour rejoindre les planches. Paf, tu l'as pas vu venir la vanne d'Elvan. L'Origine du Monde, c'est beau comme titre. C'est suggestif, ça rappelle l'œuvre de Courbet, Gustave, pas Julien. Parce que si c'était Julien Courbet, il lui aurait envoyé des huissiers pour couper tout ça. Paf.
Et puis Jean Reno est là également.
Bonjour Laurent, vous savez, je suis très déçu que l'on n'ait pas fait appel à moi pour jouer dans L'Origine du Monde, car avec l'immense palette de sentiments dont je dispose, j'aurais pu jouer une multitude de rôles dans ce film. Par exemple, jouer un homme avec le cœur qui ne bat pas. Oh non, mon cœur ne bat pas, j'ai peur d'être mort. Sniff. J'aurais aussi pu jouer un homme dont le cœur bat. Oh oui, mon cœur bat, je suis vivant. Youpi. Et enfin, j'aurais même pu jouer un défibrillateur. Bzzt, bzzt, je suis un défibrillateur. Bzzt, ouais. Vous voyez, grâce à mon jeu d'acteur, le mimétisme est sidérant.
Pardon, Philippe, j'ai une dernière blague bien lourde, puisque Julia et Mélanie ont parlé de prostate hier. Est-ce que vous connaissez la différence entre le dépistage du cancer de la prostate et le dépistage du cancer du sein ?
Dites.
Eh bien, si vous êtes Caitlyn Jenner, il faut faire les deux.
Oh, oh là là. Merci Marc-Antoine Lebray. Merci Laurent Lafitte d'avoir été avec nous. On est bon, L'Origine du Monde. Votre premier film qui sort aujourd'hui avec Karine Viard, Vincent Macaigne, Hélène Vincent et je n'oublie pas Nicole Garcia, vous le constatez. Merci d'avoir été avec nous en direct. Nous, demain, on se retrouve avec Tristan Valex, le journaliste, nouveau visage de Complément d'enquête sur France 2. Et puis le comédien Pierre Arditi pour une pièce, fallait pas le dire, c'est le titre de la pièce, qu'il joue avec son épouse Evelyne Bouix au Théâtre de la Renaissance juste après le flash. Julia Vignali et Mélanie Gomez qu'on a entendu rire déjà. Bien fait pour vous, c'est votre notre émission, le programme du jour.
Mélanie. Allez, je vais commencer. Aujourd'hui, on va se poser une question. Et si on fichait un peu la paix à nos enfants avec les écrans? Ou pas quand même, hein, parce qu'on verra si... On va parler des tout petits enfants. Entre 0 et 3 ans, il y a peut-être quelques règles à respecter.
Ah bon,
quand
c'est
même
contre-intuitif ce que vous proposez là. Julia.
Et puis, pour faire suite à la prostate, aujourd'hui, on parlera d'AVC. Parce que ça arrive. Alors, comme on est une émission feel good, l'idée c'est comment éviter l'AVC.
80%,
voilà, 80% des Français peuvent avoir un AVC. Et on va faire en sorte que ça n'arrive pas. Voilà, écoutez, bien fait pour vous.
Il paraît qu'il ne faut pas se retenir d'éternuer.
Ah bon ?
C'est vrai, voilà. Ça fait du mal à son cerveau. Je confirme.
Bonne journée à l'écoute d'Europe 1. Merci pour tout. Salut Laurent Lafitte.
Merci beaucoup.